petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Le journal Le Monde expliquait récemment que par son raid meurtrier contre un général iranien, Trump n'avait réussi qu'à unir à nouveau le peuple iranien autour de ses chefs religieux et politiques. Mais trois jours après, le même journal, Le Monde, montrait la révolte du même peuple iranien contre ses chefs après l'erreur de tir d'un missile iranien contre un avion civil, faisant d'ailleurs près de 200 morts. Opinion versatile, peut-être. Mais en tout cas, il est faux. Il est faux de croire à tout moment à un tournant de l'histoire, comme si tel ou tel événement devait changer fondamentalement le cours des choses. En ce début 2020, nous nous croyons aussi en France à un tournant de l'histoire, transition écologique, révolution numérique, révolte citoyenne, etc. Chaque génération se croit à un tournant de l'histoire. Parmi les alertes des Cassandres, on se souvient des trous dans la couche d'ozone. Et là, c'était un tournant mortel de l'histoire, c'est ce qu'on nous disait partout. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y a toujours eu des trous dans la couche d'ozone et qu'on pouvait améliorer ce filtre à ultraviolet en remplaçant les gaz réfrigérants et propulseurs. 30 ans après, tout va pour le mieux, pas de tournant de l'histoire. La mondialisation est encore souvent présentée comme un tournant de l'histoire. Mais aujourd'hui, l'histoire se retourne car nombre de pays, et pas des moindres, se referment sur leur économie nationale à l'instar du Brexit et du protectionnisme américain. Pour une grande majorité d'intellectuels, c'est donc un autre exemple des années 60-70, le marxisme, on s'en souvient clairement, devait l'emporter dans tous les domaines. C'était soi-disant le sens de l'histoire. Mais c'est le communisme qui a été emporté avec le mur de Berlin en 1989. Décidément, l'histoire a du mal à tourner sans se retourner. Nouveau mirage d'un tournant, mais justement en 1989, d'un soi-disant tournant, la fin de l'histoire. Excusez du peu, Francis Fukuyama, très célèbre sociologue américain, donne pour titre à son livre en 1989 « La fin de l'histoire ». C'est-à-dire que pour lui, le communisme a implosé, le paradis terrestre et s'ouvre devant nous. Évidemment, déception. Il n'y a pas de sens de l'histoire, ni de grand tournant de l'histoire, du moins sens et tournant discernés ou discernables en direct. L'histoire nous joue des farces. Le grand philosophe allemand Hegel, 1770-1831, parle de ruse de l'histoire dans l'histoire, de ruse de la raison, pardon, dans l'histoire. Pour lui, les grands hommes de l'histoire des peuples croient poursuivre leur ambition personnelle. C'est vrai, mais en même temps, ils correspondent à des attentes rationnelles des peuples. C'est ainsi, dit Hegel, que César croit consolider son pouvoir et son avenir romain en se lançant dans la guerre des Gaules et autres conquêtes. C'est vrai, mais la ruse, c'est toujours Hegel qui analyse ça, la ruse de la raison et que l'action de César fait finalement progresser la notion d'État contre celle de tribu, la notion d'État rationnellement gouverné. On peut prolonger, nous-mêmes, sans Hegel, la liste des exemples. Louis XIV veut instaurer sa monarchie absolue. Pour cela, il attire la noblesse à la cour pour mieux la contrôler, pour la désarmer et la déconnecter, en quelque sorte, des provinces. Mais ce faisant, il met à la tête des provinces des bourgeois compétents à la place de la noblesse. Bref, il réalise à l'avance ce qui va être la Révolution française. La ruse de la raison, inconsciente, a récupéré les passions de Louis XIV, celles du despotisme, pour les mettre au service de leur contraire, la Révolution bourgeoise de 1789. Je cite Hegel, « Rien de grand ne se fait sans passion », écrit-il. À partir de là, certains commentateurs en ont fait le philosophe du romantisme. Certes, rien de grand ne se fait sans passion, mais ce qui fait, c'est ce qui se fait de grand, n'est pas le fruit des intentions des grands hommes. Ce sont les conséquences rationnelles d'une société qui attendait les ambitions de ce chef pour réaliser un progrès dans l'histoire. C'est ainsi que, très curieusement, Napoléon Ier peut être l'instigateur et l'exportateur en Europe de la démocratie concrète. Curieusement, car Napoléon cherche le pouvoir sur l'Europe, pouvoir monarchique. Mais sa grande armée, par sa composition, les soldats qui y sont, va répandre les idées de la Révolution française dans toute l'Europe. Surtout, Napoléon, avec l'aide d'un groupe de juristes présidé, on le sait, par Cambacérès, fait écrire et promulguer le code civil et le code pénal, bien plus important pour le peuple que le droit de vote, pour des citoyens, enfin égaux devant la loi, équitable et identique pour tous. Encore une ruse de l'histoire qui utilise les pouvoirs passionnels du chef pour incarner l'esprit d'un peuple, Volksgeist en allemand, dit Hegel. À une autre époque, dans un autre pays, Bonaparte aurait pu finir colonel d'artillerie totalement inconnu, totalement anonyme. Il arrive, en fait, à point nommé, auréolé de ses succès militaires en Italie. La France est lasse de son instabilité. Elle attend un chef qui remette de l'ordre. Ce sera Napoléon Bonaparte, général de la République et chef charismatique. L'histoire est faite de rencontres fortuites, de l'homme ambitieux et de conjonctures, de contextes politiques précis qui cherche confusément un catalyseur. Et en 2017, dans une situation populaire de défiance envers la classe politique et le dégagisme de cette classe politique, Emmanuel Macron, homme jeune et neuf, peut incarner une nouvelle gouvernance qui fait éclater le clivage traditionnel droite-gauche. Mais la ruse de la raison dépend du hasard. Un hasard très fort dans la mise à mal du candidat de la droite par des affaires non directement politiques. Macron passait à la trappe. Contre Hegel, cette fois, je dirais qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a que des zigzags imprévisibles. Il n'y a pas de sens de l'histoire, mais il y a une histoire. L'humanité s'historialise. À partir d'un passé, son présent se projette vers un avenir. Cette idée apparemment banale est en fait tout à fait exceptionnelle. Toutes les civilisations du monde ont une conception cyclique du temps, qui procède de rythmes naturels, jour, nuit, printemps, été, automne, hiver, rythme des germinations jusqu'à la mort végétale, rythme cyclique des astres dans le ciel, etc. Évidemment, le temps cyclique, l'éternel retour du même, ne permet pas le progrès. Il peut y avoir des inventions et des découvertes, mais la société n'en fait pas grand-chose. Le progrès n'est pas une valeur, on n'y croit pas. Or, avec la Bible, il n'y a plus de fatalité. L'homme, avec l'aide de Dieu, peut changer le monde et se changer lui-même. C'est une exception culturelle qui va peu à peu se répandre dans le monde. Le pape François tient beaucoup à cette inauguration par la Bible d'un temps linéaire symbolisé non plus par un cercle, le temps cyclique, mais par un vecteur qui du passé tend vers l'avenir dès à présent. Un avenir autre et meilleur qu'aujourd'hui. Il dit dans son homélie du 31 décembre 2013 « La vision biblique et chrétienne du temps et de l'histoire n'est pas cyclique mais linéaire. » Fin de citation. De fait, les civilisations du temps cyclique n'ont pas d'histoire. Toutefois, le vecteur ne va pas forcément du passé vers l'avenir. Dans ce sens-là, le futur serait une conséquence du passé. En expliquant la bataille d'Austerlitz en 1805, un historien peut dire que la victoire française était, dans le sens logique de l'histoire, une armée française qui en veut, tandis que l'ennemi n'avait pas du tout envie de se faire tuer pour le monarque qui était le sien, des officiers compétents et dont des nobles sans instruction militaire, une nouvelle stratégie, etc. Mais le soldat de Napoléon, au milieu de la bataille, du début à la fin, dans la zone étroite où il engage sa vie, n'a pas du tout l'impression que l'histoire vient du passé, vient de conditions préalables, favorables, et que c'est gagné d'avance. Pour lui, comme en témoignent les héros stendhaliens des batailles napoléoniennes, les balles et les boulets de canon viennent de l'avenir. Ils sont des avènements qui surgissent, non pas de derrière, mais de devant. Heidegger parlera de venir à soi de l'avenir. Le vecteur part de l'avenir pour grossir le passé. Pour les bergers de Bethléem, la nativité n'est pas une conséquence qui découle de l'Ancien Testament, c'est un avènement nouveau, Jésus advient. La ruse de la raison est que ce bébé fragile est le sauveur du monde.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.